en l'air et les Shaddock qui avaient les pieds par terre, en bas. Hein. Et donc là, lui, il a les pieds en l'air, donc pour lui, sa masse, c'est là, donc il a ça dans l'émetteur et il a... il est branché généreusement à la masse. Donc il a un bon courant qui passe là-dedans. Et le courant peut soit passer dans une entrée, on verra comment, c'est-à-dire être tiré par une entrée vers la masse, soit les entrées sont isolées et le courant passe ici dans l'émetteur. Mais comme c'est un émetteur de transistor, ça sature les autres collecteurs. Et si ça sature des différents transistors, la tension émetteur-collecteur, je vous l'ai indiqué, est largement inférieure au seuil. Donc c'est des tensions ici de l'ordre de 0,2 volts, quand il est saturé. Et des tensions de 0,2 volts fait qu'il n'y a plus assez, si on branche ça ici, eh bien, on ne tire pas sur le courant passe dans cette diode là plutôt que de quand on est à 0,2 volts, le courant vient vers une entrée et non vers celle-ci, puisque pour débloquer ça, l'entrée émetteur base demande 0,8 volts pour être conducteur. Donc là, on met 0,25. Donc ça passe pas. Et donc, il y a quand même un effet transistor qui fait qu'on a des tensions de saturation ici. Et quand on lâche, eh bien, la tension passe à 0,8 volts ici, qui est considéré le 1. Donc on a une variation, une excursion logique entre 0,25 volts et 0,8 volts. Là. Mais à mon avis, ce transistor-là ne doit pas être de bonne qualité, celui-là non plus. Hein. Ça n'a pas eu de grand succès, l'I2L, fin des années 70. La logique ECL est une logique qui a été assez utilisée, qui est une logique différentielle, sans saturation, dans laquelle on fait passer un courant, soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Et pour ça, on met un potentiel intermédiaire qui vient d'une référence. Et ici, en baladant la tension logique, on va rendre plus ou moins conducteur ce transistor. Donc le courant, on va le faire passer d'un côté ou de l'autre. Hein, si on tire vers le bas, on va diminuer la conduction de ce transistor, et donc ça va passer de l'autre côté. Et si on met une tension plus élevée, le courant va passer de ce côté-là. Et c'est exactement ce qu'on appelle un ampli différentiel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est comme une balance très sensible aux variations. Et c'est cette sensibilité liée à de petites excursions qui sait sa rapidité. Des portes comme ça, en différentiel, tournaient à la nanoseconde. La nanoseconde, pour ces époques, c'était considéré comme très intéressant. Le cré était fait avec cette logique-là. Hein.
On a fait ça avec des tubes. C'était le cathode follower.
Oui,
c'était
oui.
C'était quelques centaines de picosecondes. C'était 300 picosecondes.
Alors, il y en a eu qui ont été à 300 picosecondes à la fin, oui.
Ça consomme beaucoup.
Mais ça consommait beaucoup. Oui. Ça consommait beaucoup. Et donc... C'est Motorola qui fabriquait ça pendant longtemps et bon, ça n'a pas tellement eu de suite après avec. Voilà. Alors, je vais peut-être. Combien je suis en 75, donc on est bientôt dans.
On va arrêter là si on voit qu'il y a des questions-réponses. On a encore une vingtaine de minutes.
On peut s'arrêter là et puis.
C'est pas la bonne logique.
Quoi ?
C'est peut-être pas la bonne logique.
Après, si vous voulez, je voulais là parler, juste dire quelques mots sur la série 74 et puis parler de la logique qu'entraîne le bipolet. Hein, donc la logique, si vous voulez, avec cette histoire-là, on a eu une logique qui comportait des niveaux logiques, donc en 2,4 volts et 0,8 volts, et des événements qui étaient représentés par des fronts d'horloge. C'est-à-dire qu'en fait, l'événement était une vision d'un signal logique et non pas un être à part. L'impulsion, c'est un être à part, c'est pas un niveau. Hein. Tandis que là, c'est des transitions qu'on appelle événements. Donc, en fait, on n'a aucune manipulation spécifique d'événements, sauf peut-être dans les bascules, et on manipule indirectement les événements par les signaux dont ce sont les transitions. Donc c'est encore une prise différente du phénomène. Hein. Donc, et idéalement, on suppose qu'il y a une horloge unique. Donc on était parti, ça a été le départ, ça, de la logique synchrone. Hein. Avant, on avait, pour tout ce qui précédait, on utilisait une logique asynchrone. Voilà, logique asynchrone, et en particulier une logique qui était basée sur des chaînes de retard. Alors ça a été fait dans les tubes, hein, et puis ça a été fait dans les premiers engins à transistor, hein, toutes les machines à l'époque du CDC, 7006, des premiers ordinateurs étaient faits comme ça. Et donc on avait des montages, un réseau combinatoire, vous aviez des bascules, celle-là fournit les données au réseau combinatoire, ça prend les résultats, et on mettait un retard qui fabriquait une impulsion pour capter la sortie. Là, on avait une impulsion qui provoquait le chargement des entrées, et là, on avait une transition qui provoquait par... et tout le problème était d'ajuster ces retards. Hein, et dans les chaînes de retard, l'ajustage des chaînes de retard dans des machines un peu complexes, en particulier les ordinateurs, était très, très, très délicat. Surtout que ça, on n'était jamais sûr que ça varie comme ça. Hein. Alors, ça posait des problèmes. Hein. Alors, c'était des retards, il y avait des multivibrateurs. Alors, quand les chaînes étaient branchues, et avec des boucles, ça devenait assez infernal, comme truc. Donc, ça a été abandonné, et ça a été abandonné au profit d'une solution synchrone, hein, dans laquelle on dit les bascules, elles reçoivent une horloge. Et donc là, je vous ai donné le modèle, ce qu'il y a dans une bascule